Chapitre 18. Me voici à Aumont et je reprends avec bonheur mon livre de raison que je n'ai pas ouvert pendant mon séjour chez mon ami. Dans ce château, j'ai vu beaucoup de monde, que m'importe le monde. J'ai été entouré d'amitié, de soins raffinés, de satisfactions d'amour-propre, que m'importent les distractions et les satisfactions vaniteuses. Jacqueline m'a dit plus d'une fois, mon ami, ton corps est ici, mais ton âme est bien loin. Parle-moi du pays dans lequel elle habite. Tu es trop curieuse, répondis-je. Cependant, je promets de te décrire le pays dans un an. Il est certain que, même chez elle, mes yeux ne voyaient rien en dehors d'un point fixe. Mes facultés, sourdes aux bruits mondains, préféraient leurs rêves à l'univers entier. Avec une de mes anciennes maîtresses de cours, retirée du professorat. J'ai bien jugé, et il faut, en effet, que ma présence soit désagréable à André pour que, dérogeant à ses principes, il soit si libéral dans ses permissions. Volontiers, je passerai tout l'hiver sous mon toit, servi comme maintenant par mes fermiers. J'aimerais être enveloppé de neige, de gelée et d'ondées furieuses. La poésie austère de l'hiver ne serait pas sans s'harmoniser avec mes pensées. Mais ma tante me presse de revenir. « Tu ne trouveras aucun changement dans notre vie, m'écrit-elle. André travaille comme un mercenaire. En dehors de ses travaux officiels, il en invente de personnel et, ainsi absorbé, il oublie. Les premières impressions se sont adoucies et le dédain que lui ont inspiré les procédés que tu connais contribue à cicatriser la blessure. Tu me manques étonnamment, ma chère enfant. Je suis habituée à tes grands yeux et à ta silhouette élégante. Je regrette même tes discussions aiguës avec ton cousin. Toujours inspiré par son devoir de tuteur, il parle souvent de te marier. Nous avons reçu quelques ouvertures dont nous te parlerons, mais je vois déjà le sourire qui les accueillera. Ce sourire me fait défaut. Je suis à l'âge où les habitudes douces se regrettent plus vivement. Une vieille femme aime avoir devant elle un jeune regard et j'aime particulièrement le tien, Jacqueline. Il est si sérieux, si joli aussi, quand il est voilé par la mélancolie. Mais la mélancolie est passagère, un rayon de soleil l'a fait et la fera disparaître. Hier, tu aurais ri de ta vieille tante. J'ai eu peur d'un pauvre petit ânon qui batifolait dans le chemin. Bravement, je me suis réfugié derrière une haie et j'ai pensé à toi. Reviens, reviens, ma chère Jacqueline, n'attends pas les hirondelles. M. Da. Cette lettre était douce et amère. L'affection de ma tante, son idée cachée que je connais bien, me touchait profondément. Mais, chez André, ce désir persistant de me marier... Hélas, verra-t-il un jour que je suis une femme et non une pupille ? J'ai pris ma plume, comme disent les simples, et dans l'atelier de mon père, tout baigné de lumière d'automne, j'ai répondu à Madame d'Arlancé. « Ma chère tante, je reviendrai bientôt puisque vous le désirez, mais vous ignorez le charme que cette maison a pour moi. Elle vous a déplu et je n'en suis pas étonnée. Vous ne la voyez pas comme je la vois moi-même, toute constellée de précieux souvenirs. Ces souvenirs sont semblables aux étoiles perdues dans le firmament. Mais bien que disparues à mes yeux, leur rayonnement transpire encore, si délicat cependant et si fluide que le moindre souffle l'effacerait. Il est une douceur et une souffrance. Comme nos impressions se contredisent, j'en fais quotidiennement l'expérience. Un rayon visible, bien palpable, c'est le soleil d'aujourd'hui qui dore les dernières feuilles. Vous aimez mon avenue, mais vous ne l'avez jamais vue embellie par l'automne. J'y passe des heures à flâner, et moi qui n'ai peur d'aucune bête, même d'un ânon, j'observe les mousses, les feuilles, les horizons, sans aucun souci sur ma sécurité. Rassurez-vous, ma chère tante, je n'attendrai pas les hirondelles. » Cependant, j'hésitais quand arriva une lettre de Mademoiselle de La Flage. « Que faites-vous ? Que devenez-vous, ma belle-fille ? Seriez-vous retenue prisonnière dans vos bois par un prince charmant ? Doit-il vous enlever? Faut-il accourir à votre secours? Je n'ai pas peur, les princes charmants ne sont jamais constants. Oui, ma mignonne, l'amour, chez les hommes, s'enfuit comme il est venu, sans savoir pourquoi. Retenez ce que vous dit mon expérience. Dans la solitude de mon Guérande, je me suis parfois amusée à reconstituer le monde selon les vues de mon imagination. Tous les hommes, dans cet univers reformé par moi, étaient des petits saints. Il n'y avait plus ni déboires ni errements. Chacun trouvait exactement ce qui lui convenait, sans se tromper préalablement. Remarquez la profondeur de ces derniers mots. Enfin, jamais roulettes de la terre ne furent mieux huilées et ne marchèrent avec tant de facilité. Oui, mais quelle monotonie ! J'en périssais d'ennui rien que d'y songer. C'était effroyable, ce monde parfait. Non, non, croyons que beaucoup d'accros à notre bonheur ont leur raison d'être et se réparent. J'ai déjà commencé à repriser une déchirure que vous ignorez. Malgré mes vieux yeux, la reprise s'annonce comme devant être finement faite, chaque fil est à sa place. Si je vous montre un jour mon travail, vous m'en complimenterez. Quant à vous, ma charmante, pendant que je reprise avec activité, votre tâche différente est indiquée. C'est de prouver à mon filleul, qui vous est antipathique, vous avez proclamé devant moi cette antipathie, c'est de lui prouver, dis-je, que nos facultés féminines, intellectuelles ou autres, ont dans la vie une place aussi importante que les facultés d'un savant. Convertissez-le, vous aurez d'autant plus de mérite qu'il vous déplaît. C'est beau de vaincre ses répugnances pour une œuvre d'apostolat. Revenez, ma petite, revenez, votre devoir est tout tracé. J'ai répondu simplement à ma maligne vieille amie. Je reviendrai, mais les conversions ne sont pas mon affaire. Vous me verrez prochainement. Cependant, je ne renonce pas sans regret à mon projet. Je crains de compromettre l'avenir en revenant trop tôt auprès de cet être déçu et mélancolique qui s'appelle mon cousin. Mais est-il donc si mélancolique? N'a-t-il pas compris que son amour eût été trois fois éphémère? Comment aimer longtemps une femme aussi sotte? Elle avait des qualités secondaires qu'il n'eût pas mises en valeur parce que, sur le fond, l'antinomie eût été entre eux trop profonde. Il fallait un homme médiocre pour faire valoir tant de médiocrité. Tout en pensant ainsi, je marchais dans mon avenue. Les feuilles tombaient autour de moi et mes peupliers chantaient leur dernière chanson. Quand viendra le renouveau de leur vie, où en seront nos rapports à André et à moi? Nos âmes se comprendront-elles? Oh, mes peupliers, répondez! Que dit votre voix musicale? Est-ce l'espoir qui passe avec la brise dans vos feuilles frissonnantes? Est-ce la joie que renferme le rayon d'or, accroché à vos cimes qui se dépouillent? Ton cœur est arrivé à un tournant, m'avait dit Madame d'Arlancé à cet endroit même. En me remémorant plus d'un détail, en me rappelant sa main caressante et son mot, il était bien aveugle, je me dis, une fois encore, qu'elle savait désormais pourquoi mon cœur était parvenu à un tournant. Elle connaissait maintenant l'objet du rêve dont mes yeux avaient gardé le reflet. Toujours méditant, je revins sur mes pas et entrai dans la cour de la ferme. Pelchat accourut aussitôt avec un tel déplacement d'air que les volailles s'enfuyaient sur son passage. « Vos nombreuses poules ont peur de vous, Pelchat. » « Oui, ma foi, je fais si souvent claquer mon fouet qu'elles ne peuvent pas me sentir. Mademoiselle, restera-t-elle longtemps ici ?»« Non, ma tante désire que j'abrège mon séjour à Aumont. » »« Ah, bien, je n'en serai pas fâchée. Ma femme et moi, nous disions, pas plus tard que ce matin, que mademoiselle était trop seule et se faisait des idées. »« Des idées ?» dis-je en riant. « Quelles idées, mon bon Pelchat ?» Des idées, eh bien, des idées, quoi. J'ai beaucoup d'idées, en effet, mais elles ne sont pas tristes, je vous assure. Ma foi, je n'en sais rien. Mademoiselle n'a pas l'air si gaie que ça. Vous reviendrez au printemps, j'espère. La maison aura besoin de réparation. Je ne sais pas ce que je ferai. Monsieur votre tuteur viendra tout examiner, ce sera plus sûr. Je suis très capable de voir moi-même un trou dans mon toit. « Mais vous surveillez si bien, Pelchat, que je ne vois pas la nécessité d'imposer un voyage ennuyeux à mon cousin. On vous laissera carte blanche. » La bonne figure du fermier s'épanouit. « Je fais de mon mieux, bien sûr. »« Je le vois, et votre mieux est la perfection. » Ici, Pelchat ôta son chapeau, le replanta vivement sur sa tête et me dit « Mademoiselle, pourquoi le mariage de votre tuteur a-t-il manqué ?»« Mon Dieu, ils ne se convenaient pas, j'imagine. En se connaissant mieux, ils l'ont compris. » »« Leur caractère ne s'accordait pas, allons. » »«
Précisément. » »«
Et ce pauvre monsieur doit se faire du mauvais sang ?»«
Pas trop, je crois. » »«
Ma foi, il a raison. S'ils ne se plaisaient plus, ils ont mieux fait de se quitter. Plus tard, il aurait été trop tard. » Depuis mon arrivée, Pelchat tournait autour des questions qu'il venait de m'adresser. Sa curiosité satisfaite, il retourna à ses travaux, et moi j'accueillis les souvenirs qui se pressaient en foule dans cette cour où je me suis tant amusé, sans souffrance, sans arrière-pensée. Souvenirs vifs d'un être qui était moi, qui était la femme dont le cœur ardent s'inquiétait. Et d'autres transformations se succéderont. Comme c'est bizarre! Dans ma maison, je me suis promené avec mes ombres. Je leur ai demandé si mon rêve deviendrait, comme elle-même, le délicat, l'imperceptible rayonnement d'une chose heureuse ou le rayon réel d'un beau soleil. Le doute, lui, est une réalité d'une crudité bien fatigante quand le cœur sort de ses songes. J'essayais de maîtriser la tristesse en me promenant dans mon jardin. Le ciel était sombre, sauf une large bande de lumière à l'horizon. Le fond lumineux ressemblait à une nappe d'eau éclairée par le soleil couchant. Toute la partie de la terre était noire. La lumière, placée derrière les arbres, en découpait crûment les contours et les branches. Cette lumière donnait à l'extrémité de l'horizon, d'ailleurs rapprochée, l'aspect d'une falaise qui finit brusquement et s'arrête à l'abîme. Je m'enfuis pour ne plus voir l'abîme et ne penser qu'à la bande lumineuse.